L'édito de Jean-Jacques Seymour.
Bonjour. Il y a de l'or, de l'argent et du cuivre enfouis dans les montagnes d'Haïti, a rapporté une dépêche de l'Associated Press postée vendredi. Signée par la journaliste Marta Mendoza, ce papier titré « Les espoirs de trouver de l'or provoqueront un boom dans l'exploitation minière en Haïti » a révélé que des fouilles d'exploration dans les montagnes du Nord-Est l'année dernière ont permis de trouver des métaux précieux dont le potentiel est estimé à 20 milliards de dollars américains. Maintenant, il y a une compagnie qui effectue des fouilles pour déterminer comment extirper ces métaux, indique l'agence. Chez les voisins dominicains, sous ces mêmes latitudes et dans le même secteur, des travailleurs attendent avant de lancer des opérations minières sur ce qui semble être l'un des plus grands gisements d'or du monde, estimé à 40 milliards de dollars. Si les compagnies minières sont honnêtes et si Haïti a un bon gouvernement, il y a là une voie de sortie et la possibilité que le pays aille de l'avant. L'or dans les montagnes appartient au peuple haïtien qui en a grandement besoin, selon un officiel qui souligne que le budget annuel du pays est de 1 milliard de dollars américains, dont une bonne partie vient de l'aide de la communauté internationale. Des géologues indiquent aussi que les activités des failles sont favorables à la présence d'or et d'autres métaux précieux dans le sous-sol du pays, le plus pauvre de l'hémisphère, lequel se bat pour se relever des conséquences dévastatrices du séisme du 12 janvier 2010. Sur le marché international, les cours des métaux précieux sont très volatiles. La tonne de cuivre se vend à 8 000 $ américains, l'once d'argent à 30 $ et l'once d'or à 1 600 $. Des contrats ont déjà été signés et l'exploitation de l'or a déjà commencé. 10 millions de dollars ont été investis par le secteur privé de la Banque mondiale en partenariat avec l'IMF pour un projet d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Chose intéressante, ces découvertes ont été cachées à l'opinion publique haïtienne. Dans quel but?
L'invité de Jean-Jacques Seymour.
Ivekwa Maïzo, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
Économiste et consultant international, vous êtes basé en Autriche, mais vous rayonnez de manière géostratégique un peu sur toute la planète. Et en ce moment, vous intéressez à cette actualité chaude, puisque l'Europe et le monde vivent des moments difficiles en ces temps de crise. Quel bilan vous faites-vous de cette situation?
Alors quand on parlait de crise, il s'agit bien d'une crise de solvabilité de l'Europe. On avait pensé aux États-Unis, au Japon à un moment donné, mais c'est vraiment une crise de l'Europe aujourd'hui. C'est-à-dire c'est la même crise de 2008 qui a évolué. Alors qu'est-ce que j'en pense ou qu'est-ce que je peux dire comme appréciation? Partons un peu en économie. Vous savez qu'en économie, il s'agit, comme en comptabilité d'ailleurs, il s'agit d'équilibrer les comptes. Alors quand on parle des comptes des États, vous constatez qu'il y a un déficit public important, plutôt en accroissement. D'ailleurs, récemment, la France est passée à 4,2, contre les prévisions d'ailleurs. Donc, c'est un mauvais chiffre. Ça veut dire donc une mauvaise gouvernance pour les 5 dernières années de celui qui occupait l'Élysée. Et quand vous allez un peu plus loin, si c'était que la France, mais on a la Grèce, on va en parler, l'Italie, l'Espagne, la Hollande, qui aurait pu penser à la Hollande. Je parle même pas des anciens, Portugal et l'Islande. Alors, tous ces problèmes viennent d'une façon de gérer et soyons très simples, il y a l'État, avec l'argent des contribuables, il y a les banques, les institutions financières, et bien sûr, il y a les ménages, vous et moi. Qu'est-ce qui se passe? En principe, l'intermédiation financière qui est la banque devrait jouer son rôle plus ou moins neutre, un peu de taux d'intérêt, et puis le jeu fonctionne relativement bien. Eh ben non, cette institution financière, certaines d'entre elles bien sûr, quand elles font des pertes, parce qu'il s'agit bien de cela, mauvais investissements, parce qu'il s'agit bien de cela, en Grèce plus particulièrement, se retournent, comme ils l'ont fait ensemble avec des investisseurs privés, se retournent donc vers l'État et demandent aux contribuables de venir payer leurs pertes. Ce qui est impensable en économie. Et pourtant, cet État se lève et vole au secours, justement, de ces institutions financières qui ont fait des pertes.
Vous nous expliquez bien cela, mais quand même une question. Est-ce qu'on peut parler d'une crise de confiance du reste du monde envers l'Europe?
Alors, vous parlez de la deuxième étape.
Oui.
Dès lors, justement, que vous avez organisé un système où on a et on constate qu'il y a une mauvaise gouvernance qui donne du déficit et par ailleurs pas d'emploi, on en reviendra tout à l'heure. Alors, le monde qui vous regarde, donc les pays émergents en particulier, qui travaillent d'ailleurs avec l'Europe, se disent, mais c'est des mauvais gestionnaires. Donc vous avez une très mauvaise appréciation. D'ailleurs, au niveau technique, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les ratings, qui sont en fait des notes qui sont données aux États, qui sont données aux banques. Et ces ratings sont plutôt négatifs ou en baisse pour la plupart. La Grèce, d'ailleurs, a continué à baisser. Et pourquoi on note? On note parce que c'est une marque de confiance. Si on perd la marque de confiance, qu'est-ce qui se passe? Le taux d'intérêt augmente. Et donc, puisque vous vivez au-dessus de vos moyens, vous empruntez pour consommer, ce qui est absolument inimaginable. On peut le faire pour acheter une voiture ou deux, mais on peut pas le faire pour toute sa vie. Et c'est ce que font les États européens actuellement, l'essentiel d'entre eux. Bien sûr, des exceptions. L'Allemagne, ceux qui sont gardés d'ailleurs, un très bon rating, 3 fois A, comme on dit.
En tout cas, vous avez prononcé à plusieurs fois la Grèce,
oui.
Où il y a aujourd'hui une aggravation de la crise politique, puisque les Grecs vont revenir aux urnes d'ici la mi-juin.
Absolument.
Tout ceci est inquiétant pour l'équilibre européen et sa stabilité.
Mais je dirais plus loin l'équilibre mondial. Alors prenons d'abord l'équilibre européen.
Mondial.
Oui, absolument. On va aller par deux étapes. Vous savez, la structure sous-régionale qui est l'Europe, l'Union, qui n'est pas une structure fédérale. Il faut bien le rappeler à tout le monde. Tout le monde y croit, mais ce n'est pas une structure fédérale. C'est un assemblage dans lequel on n'a pas voulu donner un pouvoir nécessaire pour être une structure fédérale, dont des États fédérés, comme aux États-Unis d'ailleurs, ou la Suisse éventuellement, et surtout faire en sorte qu'on puisse agréger les dettes et donc se surveiller mutuellement. Ah bien sûr, il y a le pacte de stabilité qui dit qu'il ne faut pas dépasser 3%. Mais la France est déjà à 4,2. L'Allemagne, n'en parlons pas, un peu plus, un peu moins. La Grèce, ils sont largement au-dessus, 7 ou 8. Alors, ce que je veux dire, c'est que cette règle de discipline interne ne fonctionnant pas, la perte de confiance s'amplifiant, et bien sûr, vous devenez, sur le plan économique, un danger. Est-ce qu'on doit faire des affaires avec un pays qui, demain matin, pourrait ne pas payer, donc insolvable, et peut-être même défaillant, pour le cas de la Grèce plus particulièrement? Première question. Deuxième question. On peut très bien laisser faire. Parce que je peux très bien faire en sorte que cet État défaillant, puisqu'il ne peut plus payer, je paye tout pour elle, donc je l'achète, je la colonise. Vous voyez, on retourne un peu en arrière. Et ce n'est pas impossible dans le cas grec, tout particulièrement. Il y a des cas qui sont déjà là, au niveau des entreprises, que les gens ne voient pas. C'est-à-dire que quand vous rachetez un certain nombre d'entreprises qui appartiennent à, on va pas citer les noms ici, mais à des grands groupes, et que ces grands groupes, au fond, on l'a eu à vil prix puisque vous étiez endetté. Donc, écoutez, la valeur de votre dette, elle a dû baisser. Et donc, petit à petit, comme ça, on prend possession. Alors, pourquoi j'ai dit international maintenant? Quittons l'Europe. Il se trouve qu'en Europe même, il n'y a suffisamment pas d'argent. Et donc, c'est ceux qui ont ce qu'on appelle les réserves internationales. Pensons à la Chine, par exemple. Pensons aux pays arabes en général. Voire même certains pays africains. Angola, vous serez étonné, qui est en train d'acheter pratiquement une bonne partie du Portugal. Très intéressant,
ouais. Oui, que
ce soit le contraire.
Voilà.
Et que les étudiants, ingénieurs, quand ils sortent aujourd'hui, ils ne veulent même plus le passeport portugais, ils veulent un passeport guinée-équatorial, ils veulent un passeport angolais, et ils ne veulent plus entendre parler de ce pays puisqu'il ne leur donne pas d'avenir. Donc, ça devient une crise internationale. Et dans cette crise internationale, on ne va pas parler de colonisation, mais il y a quand même des grands pays qui ont des réserves intéressantes qui vont se dire, mais pourquoi pas ne pas acheter une telle partie ou telle partie des îles? Les Allemands se sont pas privés, parce que si vous regardez l'accord qui a été signé, il s'agit bien de cela, et c'est le Bruxelles, donc l'Union Européenne, qui l'a au fond imposé. Alors, la question qu'il faut se poser, est-ce que pour pouvoir conserver des gens, entre guillemets, qui se comprennent entre eux et qui acceptent de payer les uns pour les autres, faut-il exclure la Grèce? Autrement dit, pour les auditeurs, il s'agit d'aller ensemble au restaurant. On est, bien sûr, 17 dans la zone euro, on est 27 dans l'Union Européenne, et puis on se dit, écoutez, il y a un qui boit du champagne et qui veut pas payer, ou qui paye 1 euro, et puis un qui a pris un sandwich parce que il mange pas beaucoup, et on lui dit de payer pour les autres. Donc regardez bien ce qui se passe. Donc quand Mme Merkel dit qu'elle veut pas payer pour un tel ou un tel, vous comprenez sa position, surtout que M. Schröder et elle-même ont quand même fait des efforts importants de restructuration de leur économie.
Alors, à la veille du week-end, on a lu dans un journal allemand, et non des moindres, le Der Spiegel,
ouais.
Dire, finalement, retour à la drame, c'est-à-dire à la monnaie nationale grecque, ne serait pas impossible, en tout cas, ne nous gênerait pas.
Bon, c'est
un scénario qui était inenvisageable il y a quelques mois.
Absolument. Alors, justement, il y a une évolution de cette position allemande, mais revenons à l'essentiel. D'abord, sur le plan juridique, il faut être clair, si on est dans la zone euro et qu'on est dans l'Union européenne, en principe, si on quitte la zone euro, ce qui veut dire qu'on retourne au drame, comme vous le dites, qui est la monnaie donc grecque, on faudrait quitter l'Union européenne. Vous savez qu'il y a toujours des astuces juridiques pour rester. Mais en principe, sur la position allemande aujourd'hui, que si les Grecs veulent quitter, ils quittent totalement. S'ils quittent totalement, ils vont peut-être trouver d'autres partenaires. On va y revenir. Et je pense qu'ils pourraient se retourner vers des pays comme la Chine qui ont, je disais tout à l'heure, des réserves internationales. Alors, revenons sur le fond. Si on accepte que la Grèce sorte de la zone euro et donc retourne à sa monnaie, ça veut dire une dévaluation de fait. Faut qu'on soit très concret. C'est-à-dire que si je devais acheter une tablette de chocolat à 2 euros en tant que grec, et qu'il y a une dévaluation, cette tablette va me revenir pratiquement à du 15 à 20 euros. Faut qu'on soit clair de la situation. Il suffit de voir aujourd'hui, quand on convertit la baguette de pain qui vaut à peu près 1 euro en francs, on voit tout de suite qu'on se dit on n'aurait jamais acheté un pain à ce prix-là. Oui. Alors, je ne rentre pas dans les fruits et légumes, etc. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. Mais en même temps, compte tenu du fait que ce que vous produisez est devenu moins cher, vous allez pouvoir exporter. Donc, c'est la relance par l'exportation. Sauf que il va falloir produire. Qu'est-ce qu'on fait en Grèce? Au fond, on fait du tourisme. C'est pas de la production, c'est de la consommation, en fait. Donc, ce sont des gens qui viennent dans ce pays, les Grecs ont le sourire, et vous dépensez localement. Donc, ça ne sert pas. Un peu de vin. D'ailleurs, la plupart des vignes sont achetées, d'ailleurs, par les Chinois. Très intéressant. Puisque c'est l'Europe qui a dit de sortir ces vignes-là. Et certains qui n'avaient pas, qui avaient refusé d'appliquer la règle, et donc qui ont conservé leurs vignes, se retrouvent être dans une position très forte aujourd'hui, et elles le vendent aux Chinois, et ils se font beaucoup d'argent. Donc, je pense que il va falloir réfléchir par deux ou trois fois avant de dire, oui, la Grèce peut sortir. Troisièmement, la contagion. Mais dites, si la Grèce prend le drame, les Italiens vont prendre la lire, les Espagnols, et on peut continuer la liste. Et les Français, pourquoi pas
le franc?
Et absolument. Donc, je pense que ça va être une mécanique, ce qui peut vraiment déstabiliser. Maintenant, on peut penser techniquement faire une suspension, encore faut-il savoir sur quelle monnaie il faut s'aligner, de la Grèce, pour qu'elle puisse revenir plus tard. Certains ont pensé d'avoir deux niveaux de monnaie. Je veux pas dire que les Allemands sont ce qu'ils sont, mais quand même, ils se disent que les gens du Nord sont plus structurés, organisés, vous connaissez la théorie, et que ceux du Sud, c'est un peu la pagaille, et que ça remonte jusqu'aux Gaulois. Donc ça veut dire que ceux qui sont du Sud, et qui ne respectent pas donc les règles budgétaires et la discipline budgétaire, devraient en principe avoir une sorte d'euro dévalué.
En tout cas, l'euro vit les pires moments depuis sa création. Est-ce que vous croyez à son éclatement probable?
Je pense que l'éclatement peut avoir lieu. Ce n'était pas tout à fait prévu par les statuts. Mais aujourd'hui, compte tenu de la défaillance importante, ça peut avoir lieu. Connaissant le volet important de soudure de l'ensemble de la classe européenne, je pense que quand la situation va devenir dangereuse, il y aura un réflexe pour laisser la Grèce en Europe, en Union européenne. Pourquoi? Si on laissait la Grèce sortir, avec tout ce qu'on vient de dire, ben la Grèce peut se retourner directement avec la Chine. La Chine a 4500 ou 600 milliards de réserves internationales aujourd'hui où je vous parle. L'ensemble de la dette grecque, bon, tout compris, là, j'ai pas mes documents avec moi, mais c'est entre 500 et 700. Donc, je veux dire, c'est un petit éternuement pour la Chine, et la situation est résolue. Parce quel est le problème? Il s'agit de rembourser cela. Et on demande de rembourser en 2 ans, maximum 3 ans. Mais c'est comme si je vous prêtais de l'argent pour faire un investissement, et de tous les 2 mois, puisque les Grecs sont en fait contrôlés par l'Union Européenne aujourd'hui, ou des agents de l'Union Européenne, et donc vous ne pas utiliser cet argent-là. Et en plus, quand vous voulez l'utiliser, je vous demande ce que vous voulez en faire. Non, il faut que vous puissiez investir, faire vos choix, bonne ou mauvaise gouvernance, et vous rembourser. Et si vous engagez sur 15 ans ou 20 ans, c'est faisable. Comme tous les pays. Malheureusement, on applique des politiques du Fonds Monétaire International, que l'Union Européenne reprend, à son compte, qu'ils ont appliqué en Afrique. On a eu 4, 5, 6 dévaluations, par exemple, de suite, dans un certain nombre de pays africains, avec les catastrophes qui s'en suivent, et on le voit. Et dans tous les cas de figure en économie, ça ne crée pas de la croissance. Et dans tous les cas en économie, c'est de la récession pure. Et dans tous les cas économie, ça appauvrit, ça diminue le pouvoir d'achat. Et là, vous avez vu les photos, c'est désolant. Sachez aussi qu'il y a à peu près 13 ou 15% de gens qui payent des impôts. Donc ça veut dire qu'il y a tellement de non-respect de la loi elle-même qui fait que bah, tous ceux-là qui sont dans l'administration, qui vont plus toucher ou qui ont été remis pratiquement à zéro en termes de salaire, ils partent et se retrouvent à prendre 2-3 poulets. Et je vous dis pas des blagues, hein, comme en Afrique, 2-3 poulets, manger les œufs et commencer à ne pas manger la poule et attendre que le poussin commence.
Comment ressusciter les drames? Est-ce la bonne solution? Revenons-y.
Bah, je ne pense pas que ce soit la notion monétaire qui soit la bonne solution. Il y a un problème de fond et structurel. On ne peut pas bâtir une fédération, qui n'en est pas une, l'Union Européenne, et penser avoir un attribut de la fédération qui est la monnaie, qui est l'euro. On a fait le contraire, on a mis la charrue avant les bœufs. Et maintenant on se dit, mais écoutez, puisqu'il y en a un qui veut pas jouer le jeu, on le sort. Bon, très bien, mais et la contagion, encore une fois. La Grèce, c'est pas si grave que ça, et tout le monde va se cotiser, et puis on va finalement pour pouvoir payer cette histoire. Chacun ne va pas être content, mais on va payer. Mais ce n'est pas le cas de l'Italie ou l'Espagne, ou voire même d'autres pays. Surtout si ça se cumule. Bon, n'oubliez pas non plus que la plupart de ces pays, dans l'histoire, c'était quand même une des grandes colonisations qui sont des empires qui ont chuté. Et donc, l'Espagne fait plus le malin en Amérique latine, le Portugal au Brésil, etc. Et la Grèce, n'en parlons pas dans l'histoire ancienne. Donc, fondamentalement, c'est une refonte que propose d'ailleurs le candidat français, le président français aujourd'hui, François Hollande, pour revisiter tout ceci.
Alors justement, j'allais vous poser cette question, c'est l'objet de la rencontre de mai, dont on dit qu'elle est une rencontre à haut risque. Comment est le rapport de force?
Alors, j'entends bien la notion de rapport de force exister. Je ne pense absolument pas et je ne crois absolument pas la plupart des journaux que j'ai lus sur ce sujet. Vous savez, en politique, j'ai fait 20 ans aux Nations Unies et il se passe ce qu'on appelle la notion de consensus. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, en plus, je suis une femme, Madame Merkel, en face, il y a un monsieur distingué, vous savez, ils vont d'abord se dire bonjour. Ils vont apprendre à se faire la bise. Pour les auditeurs, évitez de se faire sur la bouche, ce qui est très important. Et à partir de là, il se passe quelque chose de très intéressant. C'est qu'on se dit, mais finalement, il s'est bien rasé, il ne pique pas. Et elle, mais elle est quand même si gentille que ça. Alors, je blague avec cette histoire, mais vous allez voir que c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, contrairement à ce qui passe, il n'y aura pas le choc frontal. Il va y avoir deux positions qui vont se dire, mais pourquoi on ne pourrait pas s'entendre? Et vous savez ce qui va se passer? C'est que Madame Merkel, elle est du CDU, qui est le parti de droite, un peu comme l'UMP ici, mais une UMP fédérale, parce qu'elle est obligée d'avoir la position des Länder, les régions, avant de prendre position. Donc ce qu'elle dit, ce n'est pas de l'autoritarisme, c'est de la négociation. Elle va se dire, mais après tout, dans mes précédents gouvernements, j'ai travaillé avec des gens du SPD, la gauche, et ça s'est plus ou moins bien passé malgré tout. Pourquoi je ne ferais pas ceci sur le plan européen? Donc c'est un consensus européen, et je pense que ça se passera plutôt bien. Maintenant, il y a des problèmes de fond. Il y a deux lignes qui sont s'affrontées, et je ne pense pas que quelqu'un comme Hollande, qui a fait HEC, qui a fait l'ENA, et qui en plus a des bras longs dans le domaine du secteur privé, va céder sur le fait qu'un État qui a des difficultés va les payer pour des banques qui font des pertes. Et Mme Merkel dira ce qu'elle voudra, ce ne sera c'est inacceptable. Il se trouve effectivement que la plupart de ces banques ne sont pas allemandes, puisqu'ils gèrent un peu mieux. Il se peut que les entreprises qui marchent bien sont allemandes, en compétitivité, que la France n'est pas. Et Mme Merkel va dire à la France, écoutez, regardez vos comptes aussi, arrêtez d'aller subventionner les entreprises françaises qui ne font pas bien le jeu, surtout en Afrique. Donc tout cela va venir dans le dossier, et je pense que comme toute personne sensée, on va mettre la liste des problèmes sur la table, et on commence par le premier.
Il va y avoir une redistribution des cartes dans les prochains mois?
Je pense que oui, je pense surtout que... Il ne faut pas non plus oublier qu'il faut mettre tout ça en perspective. Madame Merkel, dans un an, a toutes les chances de ne plus être au pouvoir. Et oui, il y a des grandes chances que Madame Kraft, disons l'opposante du SPD, du Parti Socialiste, puisse reprendre la relève, puisque sur des grandes Länder où la droite allemande avait plutôt gain de cause, elle a perdu de manière forte. Et son partenaire, l'extrême droite, est en décomposition. Et le Linke, la partie qui est gauche, qui ressemble un peu au Mélenchon ici, avec les Verts d'ailleurs, sont en phase ascendante. Donc une coalition gauche élargie n'est pas impossible. Elle n'a actuellement pas la majorité au Parlement allemand. Et donc quand vous voulez des grands changements, je pense qu'il y aura des négociations. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au fond, ils ne sont pas opposés. C'est les journalistes qui font beaucoup de bruit. L'une dit, Madame Merkel, il faut absolument respecter une discipline budgétaire. Et vous n'allez pas me faire croire que moi, je fais du jeûne, c'est-à-dire que je fais des réformes, et puis que maintenant je suis en train de profiter de ces réformes, vous allez m'arrêter. Je vous rappelle que Volkswagen a donné dans les 7 500 € à ses salariés.
Oui.
Alors demander à Renault, Peugeot de faire la même chose,
il peut pas,
on peut se poser la question. Alors maintenant, le patronat français, le MEDEF, devait se poser la question, parce que là, quand on fait ce genre de choses et vous négociez avec les salariés, avec les syndicats, ça se passe quand même beaucoup mieux que ça. Les patrons français, ce n'est pas ça. J'ai vu, quand ils prennent les avions pour aller en Chine ou ailleurs, il y a le multinational allemand, il y a les entreprises moyennes allemandes, il y a les PME, les petites entreprises allemandes, souvent même payées par ceci. Le crédit, c'est les multinationales allemandes qui donnent le crédit aux PME, PMI. Et donc ça fonctionne dans les secteurs privilégiés, donc la sous-traitance fonctionne. Ici, demandez la même chose avec Peugeot. Il va au Brésil, il va au Maroc. Voilà la situation. Donc, c'est un concept structurel de la façon de gérer, de gouverner, qui ne peut plus être colonial, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui ont appliqué dans les pays où il y avait la faiblesse des États dont on n'a pas pu réagir, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique. Et aujourd'hui, ces pays qui reprennent un peu du grain de sel en termes de ce que j'appelle la marge économique, ben, les discussions se font, et quand personne ne joue pas le jeu, ben, ça bloque. Et je pense que quand une fois qu'ils auront mis sur la table leurs différences, comme aux Nations Unies d'ailleurs, une fois, ils vont se dire, par où commençons-nous? Et ils vont faire comme tout le monde, chercher où là ils ont des points communs.
Pour mettre en place un nouvel agenda économique?
Je pense que le nouvel agenda, il sera un agenda réformé dans lequel vous aurez les deux niveaux. Sachez que sur le plan technique, juridique d'ailleurs, au fond, on peut ne pas toucher au traité et mettre des annexes. Donc tout le monde a gagné. Et tout le monde sort la tête haute de cette histoire.
C'est là l'astuce.
Mais bien sûr.
Merci Yves Kouamaïse d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste et consultant international. Merci d'avoir été avec nous.